A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Saviez-vous que seulement 29% des effectifs du numérique en France étaient des femmes ? Ada Tech School, que j'ai le plaisir d'accueillir comme sponsor de cet épisode, s'est engagée à changer cette réalité. Inspirée par Ada Lovelace, qui est la pionnière de la programmation informatique, cette école féministe et inclusive offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance pour devenir développeur ou développeuse, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur vraiment porteur, où votre contribution peut façonner l'avenir, Ada Tech School vous attend. L'école est à Paris, mais aussi à Lyon et à Nantes, et il y a 3 rentrées par an. Et la prochaine rentrée, les amis, est le 27 mai 2024. Il reste encore quelques places, alors pour candidater, rendez-vous vite dès maintenant sur le site adatechschool.fr. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Si je vous demande de fermer les yeux et de me donner très rapidement le nom de 3 leaders, peut-être que viendront spontanément des noms comme Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Steve Jobs. Bref, ce ne sont sans doute pas 3 noms de femmes qui vous viendront à l'esprit spontanément. Ne vous inquiétez pas, cela ne veut pas dire que vous êtes misogyne, cela veut simplement dire que vous répondez à un biais de perception que nous avons tous eu égard à notre éducation. Au niveau du rapport au pouvoir, il nous est plus naturel d'imaginer un homme dirigeant. Bien sûr, on aurait pu tout de suite dire Marie Curie, Simone Veil, Malala Yousafzai. Mais sont-elles vraiment leaders ? Sont-elles dirigeantes ? Elles sont inspirantes, mais pas vraiment à la tête d'un pays, d'une entreprise, d'un collectif, même si elles ont toutes exercé une influence capitale sur le monde. Mais finalement, elles ont été leaders d'elles-mêmes. Elles ont fait des choix importants pour elles-mêmes et pour le collectif et dans leur quotidien. Pour parler d'oser être une femme leader, mon invitée est journaliste et fondatrice de 2 réseaux féminins. Elle préside également le réseau d'entraide nationale Femmes des Territoires. J'ai le plaisir de recevoir Marie Éloi. Bonjour.
Bonjour Akila, c'est un plaisir.
Alors, à travers vos différentes actions, vous œuvrez pour une juste place des femmes dans l'économie. Vous êtes convaincue que la clé de la transformation de nos sociétés doit passer par un élan commun, femmes et hommes. Est-ce qu'il y a encore du boulot pour faire changer les mentalités ?
Mais c'est énorme. Vous avez donné quelques images de quelques noms de personnages, mais dans les personnalités les plus médiatisées, dans notre catégorie, patron, business, en tout cas celle qui m'occupe au quotidien, on a 1% de femmes visibles en France.
Oui, oui.
99% d'hommes. Donc c'est gigantesque. Tous les chiffres sont soit stagnent, soit reculent. L'ONU estime qu'on atteindra l'égalité dans 300 ans. À ce rythme-là.
Aïe, aïe, aïe.
On en parle de plus en plus. Vraiment, les portes s'ouvrent, c'est-à-dire que l'esprit s'ouvre, qu'on se rend compte que c'est un sujet qui est essentiel, qui est même vital pour l'humanité, parce qu'il entraîne derrière lui énormément de choses. La mixité est vraiment clé. Par contre, dans les faits, dans les actions, et notamment concrètement dans les budgets dédiés pour que ça se transforme, parce que ça ne se transforme pas par une baguette magique, hein, il faut y mettre des budgets associés. Ça stagne ou ça recule.
Alors d'où est-ce que ça nous vient d'avoir tellement de mal à imaginer un leader femme ? D'ailleurs, est-ce qu'on devrait dire une leader femme ?
Eh ben, j'ai pas encore trouvé le nom, je sais pas. Donc on dit leader. J'ai pas le nom, mais j'ai pas le nom pour plein de choses. Hein. Par exemple, entrepreneur, on l'appelle entrepreneureux, mais c'est pas très joli non plus. Successeuse, C'est pas très joli non plus. On a enlevé tous ces noms, en fait. Ou alors, il n'y a pas eu de nom fait pour ça. Donc, pourquoi ça? Parce que c'est tout notre inconscient collectif, comme tu l'as dit, qui a été forgé par notre culture, par l'éducation, par les médias. Quand tu vois 1% de femmes visibles dans les médias, bon, déjà, ça pose les choses. Mais tous les films, mais même les BD. Moi qui adore les BD, mais en fait, qu'est-ce qu'elles sont misogynes? Il n'y a pas de femmes dedans, c'est hyper rare. Donc, on a été éduqués comme ça, où c'est l'homme qui est leader. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin que chacune, et chacun aussi évidemment, d'entre nous devienne leader de soi, comme tu l'as si justement dit. On a besoin de ça, l'humanité en a besoin pour transformer, parce qu'en fait, on est vraiment leader quand on est connecté vraiment à soi. Et nous, les femmes, on a été écartées de la sphère publique, de la sphère visible, depuis toujours. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on s'est connectés. Pas encore tout à fait unis, mais on s'est connectés, on a vu qu'on vivait les mêmes choses, on a rendu visible ce qu'on vivait aussi. Et donc, les réseaux sociaux permettent une transformation massive de l'imaginaire sur les femmes leaders. Parce que les médias traditionnels ont finalement peu relayé les femmes leaders. Donc, elles se sont relayées via les réseaux sociaux.
Et alors, comment est-ce qu'on peut aider les femmes, justement, à pouvoir oser être leader d'elles-mêmes? Leader pas forcément face à des questions liées à l'entrepreneuriat, hein. On sait que c'est ton aire d'expertise, mais plus vis-à-vis de leader de soi au quotidien. Comment essayer de pouvoir reprendre un peu les rênes?
C'est à la fois extrêmement dur, parce que c'est un changement de mentalité, et à la fois extrêmement facile. En tout cas, c'est très gratifiant. Extrêmement dur, c'est un changement de mentalité, c'est-à-dire qu'on nous a appris à être derrière, à être dans l'ombre, à ne pas faire trop de bruit, à ne pas prendre trop de place, à ne pas être trop visible. Je prends un exemple, là, j'ai une femme que j'adore qui a dirigé plusieurs milliers de personnes dans une grande boîte, et j'ai fait quelque chose avec elle, on a fait un événement avec elle, et elle me dit « Marie, est-ce que vous pensez que je peux relayer ça sur les réseaux sociaux ou ça montre que j'ai trop d'ego, est-ce que c'est trop prétentieux ?» Je dis « Mais vous rigolez, si vous qui avez dirigé des milliers de personnes, vous ne vous mettez pas en avant, mais en fait, nous toutes, on se sent encore moins légitimes, donc vous avez le devoir. » Je lui dis « Vous avez le devoir de vous rendre visible, c'est de l'intérêt général, parce que ce n'est pas pour vous que vous vous rendez visible, c'est pour nous toutes en fait. Et chacune d'entre nous, on a ce devoir de montrer bah, qui on est, quelles sont nos convictions, ce qui nous intéresse, ce qui nous touche. Parce que du coup, derrière, ça ouvre toutes les portes. On a tellement été habitué à dire, mais non, mais ce qu'on veut dire ou ce qu'on veut ou ce qu'on fait, c'est un petit truc. Et ben, du coup, ça ouvre pas les portes pour les autres. Donc, on a ce devoir d'intérêt général de se rendre visible.
Mais alors, est-ce que se rendre visible, c'est pas non plus risquer de pouvoir avoir des haters, de pouvoir avoir des critiques? C'est aussi peut-être pour ça que cette notion de leadership, elle est pas forcément naturelle pour les femmes.
Je pense pas, parce que quand on est juste, quand on est vraiment aligné avec soi, moi, j'ai peu de haters, en fait. Quand on est vraiment aligné avec soi et qu'on dit ce qu'on pense, bah les gens qui pensent la même chose que nous, ils vont être connectés à nous naturellement. Puis les autres, bah, tant pis pour eux, mais ils vont être connectés. Donc en fait, si on dit vraiment ce qu'on pense et ce qu'on est et ce qu'on fait, moi, les haters, ça, je pense pas que ça soit un sujet. Par contre, ce qui est difficile, c'est que tout le monde professionnel et le monde économique a été depuis toujours réalisé par des codes uniquement masculins. Et c'est le uniquement qui pose problème, parce que les femmes étaient absentes de cette sphère pendant très longtemps. Et donc, ça a créé un monde. En plus, c'était que le masculin du masculin qui a été valorisé. On est tous composés de masculin et féminin. C'est que le masculin du masculin qui a été valorisé dans les codes professionnels. Donc, dans la notion de leadership, dans la notion de pouvoir, dans la notion de management. Et en fait, tout ça fait que nous, en tant que femmes, mais aussi énormément de jeunes et énormément d'hommes, ne se reconnaissent pas dans ces codes très hiérarchiques. Tu vois, l'ancienne notion du pouvoir, du leader, on ne se reconnaît pas dedans. Et du coup, comment
être... Très patriarcal.
Très patriarcal. Et en fait, quand tu dis comment être leader de soi-même, mais ce n'est pas leader avec l'ancienne vision de « je suis leader, je décide, je suis autoritaire », ça ne marche pas en fait. Il n'y a plus grand monde qui a envie de ça, qu'on soit femme ou homme. Mais les hommes, c'était beaucoup plus facile de rentrer dans ce moule-là, puisqu'en fait, ils avaient été élevés avec ces codes-là. Nous, les femmes, on en avait été exclues. Donc, pour rentrer dans ce moule hiérarchique, faire carrière, être acceptée, finalement, on devait parfois prendre ces codes qui ne nous ressemblaient pas. Et donc, se couper de soi-même. Parce que quand on n'est pas vraiment soi-même, on se coupe de sa puissance, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une vague de départ des grands groupes ou des entreprises où ça manque de sens. C'est pour ça qu'on voit une vague aussi vers l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on voit une vague vers l'impact des femmes. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses dès qu'il s'agit d'impact que les hommes, souvent. Elles sont en tout cas leaders sur ces sujets-là. Parce qu'en fait, ces codes-là, on n'en veut plus. Ça ne nous correspond plus. Et nous, les femmes, on a aussi ce rôle de montrer une autre façon de faire de leadership. Les jeunes aussi le font extrêmement bien. Et les hommes... Bah, du coup, en voyant qu'une autre forme de leadership est possible, se disent bah, « en fait, mais carrément, eux aussi, ça leur correspond ». Donc une forme de leadership plus horizontale, plus collaborative, avec pas de frontières vie pro, vie perso, ou peu, ou en tout cas où elle est respectée, où les deux sont respectés, où on peut être vraiment aligné avec soi. Et nous, les femmes, on a un rôle de locomotive sur ça. Donc quand tu dis « comment être leader de soi-même », je pense que c'est quand... on est aligné avec soi, et par exemple, tu vois, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans tout ce qu'on, dans tous les projets qu'on peut avoir, souvent, il y a une rupture autour de la quarantaine. Mmh. C'est-à-dire burn-out, divorce, maladie, enfin, quelque chose qui fait qu'on se dit, mais on ne veut plus de ça. On veut pouvoir avoir une vie qui nous ressemble. Quelles sont mes valeurs qui sont importantes pour moi? Qu'est-ce qui est aligné avec moi? Et là, souvent, il y a une autre partie de vie qui commence. C'est pour ça que l'entrepreneuriat porté par les femmes, par exemple, c'est très rare dans la vingtaine ou la trentaine. C'est de la reconversion. C'est « je ne veux plus de ça, je sais ce que je veux aujourd'hui, et maintenant je vais faire ça ».
Alors, on connaît le sujet homme-femme hein, qui est très sensible aujourd'hui. Avec le hashtag MeToo, la parole des femmes a pu être entendue, mais beaucoup d'hommes disent que ça a créé une impossibilité de dialogue hein, entre les hommes et les femmes. L'autre jour, un ami me disait que dans son entreprise, il craint d'être seul avec une femme dans un ascenseur, de peur d'être poursuivi pour harcèlement sexuel. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais. En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il ne faut jamais être dans les extrémismes. C'est très facile de dire, de dénoncer, d'être contre. C'est très facile. C'est beaucoup plus difficile d'agir. Et c'est encore beaucoup plus difficile d'agir ensemble. Et nous, que ça soit avec Femmes des Territoires que tu as mentionné, ou Bouge ta boîte, ou Bouge ton groupe pour les salariés, on est sur le terrain. Donc on agit ensemble. Je connais quasiment pas de femmes qui sont contre les hommes. Enfin, c'est quelque chose qui est extrême, en fait, hein, qui est... contre le patriarcat, oui, c'est-à-dire contre ce dont on vient de parler, ce leadership qui ne nous correspond pas, cette image du pouvoir qui ne nous correspond pas, oui, sur le sexisme, sur toutes les violences, évidemment, ça, tout le monde est contre. Enfin, ce n'est plus possible aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Mais par contre, contre les hommes, non. Et souvent, quand nous, on fait tout notre travail sur le leadership féminin, travailler en de réseau féminin, d'intelligence collective, etc. On dit, mais en fait, est-ce que vous êtes contre les hommes ? Je crois que j'ai cette question quasiment systématiquement par des journalistes. Je dis, mais en fait, non, ce qu'on veut, nous, c'est la mixité, c'est le ensemble. Et des femmes ensemble, c'est pas contre les hommes, c'est parce qu'elles bossent sur leur business, elles bossent sur leur carrière, c'est parce que ça permet de puiser autre chose quelques heures par mois, en fait. Et donc, non, c'est pas contre les hommes, et après, tu as raison. Je crois que c'est 7 hommes sur 10 qui pensent qu'on en fait trop contre les hommes. Donc il y a cette image de égalité égale être contre les hommes, ce qui n'est pas la réalité. C'est être ensemble, avancer ensemble pour plus de mixité. La mixité, on n'y est pas du tout. Dans tous les postes de pouvoir, où qu'on soit, c'est 20% de femmes maximum. Dans les chefs d'État et de gouvernement, on est autour de...
On est bien loin, ah oui.
On est bien loin, tu vois, on n'est même pas à 10% dans les CEO non plus. Mon Dieu, on est, je crois, à 2 ou 3%. Enfin, c'est catastrophique. Donc nous, on œuvre pour la mixité. Et la mixité, c'est bien le ensemble, c'est pas contre. Et ça, il faut tout de suite enlever ça, parce que les hommes, justement, sont ceux qui peuvent ouvrir les portes. Ils sont les moteurs du changement aussi. Donc on a vraiment, vraiment, vraiment besoin d'eux. Et après, quand tu dis « j'ai peur d'être dans un ascenseur », nous, ce qu'on entend beaucoup aussi, c'est « mais en fait, on va enlever des hommes dans les entreprises pour mettre des femmes ». Mais il ne s'agit pas de ça, en fait. Il s'agit d'ouvrir les portes, et pas que des femmes d'ailleurs, vraiment de l'inclusion de manière globale, pour avoir la diversité, pour que partout, à tous les échelons d'une entreprise, d'une organisation, d'un projet, bah, ça représente la vie, en fait. Et pas juste un pan de l'humanité. Ce n'est plus possible, en fait, parce que du coup, avec cette absence de mixité, avec cette uniformité de genre dans les postes de décision, ben on va dans le mur, ce qui est normal. On prend n'importe quel produit qui a été imaginé par une partie de l'humanité, on va dans le mur. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu ? Tu vois les casques de réalité virtuelle. Bon, au début, ils ont été conçus que par des hommes. Et essayer que sur des hommes. Bref, ils n'avaient pas prévu que les femmes avec des pupilles plus rapprochées, que les femmes avaient des cheveux. Donc, bah, ça ne marchait pas. Nous, les femmes, quand on utilisait ça au début, on avait la tête qui tournait. Mais c'est pareil pour les distributeurs de savon. Ils avaient prévu que les peaux claires. Ils n'avaient pas prévu les peaux noires, donc ce n'était pas reconnu au début. Enfin, toutes ces choses-là. Donc, rien que sur les produits, ça donne une petite idée de ce qu'on peut vivre au niveau global, au niveau local, national, international. Et toutes les études le disent, je ne sais plus comment le dire moi, toutes les études le disent, plus il y a de mixité, plus il y a de paix, c'est prouvé. Il y a une paix plus forte, plus longue, plus il y a de prise en compte des enjeux environnementaux. Mais c'est des pourcentages gigantesques en plus, en fait. Ce n'est pas juste un micro-changement, non, ça change complètement. Parce que quand il y a de la mixité, il y a de la diversité dans une organisation, ce n'est pas trois femmes de plus, c'est une autre façon de fonctionner, une autre façon de prioriser. Donc, il y a plus de RSE, il y a plus de mieux vivre ensemble, il y a plus de care, de santé, il y a plus de prise en compte de l'humain, du vivant, enfin... Donc, en fait, on se prive d'une intelligence collective et de forces vives gigantesques en ne laissant que finalement cette université, cette uniformité au pouvoir. Donc nous, les femmes, on a ce devoir, je disais, de se rendre visible, mais aussi de dire ce qui est important pour nous. Et les hommes, d'ouvrir les portes, parce que c'est ça qui va permettre ben, la performance d'une entreprise, mais aussi la durabilité d'une entreprise, mais au-delà des entreprises, la durabilité de notre monde. On ne peut pas continuer, on voit bien qu'on va dans le mur là, avec ce capitalisme à outrance et cette absence de prise en compte des plus fragiles. On voit bien, alors je ne parle même pas de l'absence de prise en compte du vivant, on va dans le mur, donc il faut absolument revoir nos priorités. Et pour ça, on doit être mixte.
Comment trouver en fait un nom qui pourrait bien correspondre au mouvement que tu décris ? Parce que dès qu'on utilise le mot féminisme, aïe, 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 en termes de clivage, c'est terrible. D'ailleurs, je ne sais pas du tout si tu te dis leader féministe, si tu oses le gros mot du féminisme ou pas.
Ah, moi, je suis féministe, mais féministe, ça veut dire l'égal accès aux droits. Ça ne veut pas dire contre, ça veut dire l'égal accès aux droits. Et quand je dis ça, mais qui est contre l'égal accès aux droits ? Personne, en fait, quand je pose la question. Par contre, c'est vrai que l'image, quand je dis le mot féministe, souvent on me dit, et des femmes comme des hommes disent, moi je suis pas féministe, hein. Mais par contre, ce que tu dis, c'est vrai. Je dis, mais en fait, féministe, c'est un mot qui a été tellement malmené, il a été mis dans un extrémisme très fort, qui joue son rôle aussi, hein. Qui joue son rôle, parce que ça permet parfois, par des actions très fortes, d'ouvrir les consciences. Mais ce n'est pas la réalité de 99% des femmes ou des hommes qui se disent féministes, en fait. C'est l'égal accès aux droits. Et tu vois, j'ai un t-shirt là aujourd'hui qui dit « L'union fait la France ».
C'est très beau, oui.
C'est 1083, tu sais, c'est des qui a relocalisé le textile en France. Donc, c'est des produits éthiques. Et en fait, l'union fait la France, mais j'y crois plus que tout à la mixité. Et tout ce qu'on fait, nous, c'est pour rééquilibrer, en fait, rééquilibrer l'économie. Donc, féministe, c'est un mot qui a été vraiment maltraité. Donc, quel mouvement ? On peut dire humanisme, mais j'aime bien quand même féminisme. J'aimerais bien lui redonner ses lettres de noblesse.
Oui, donc on n'a pas à rougir du mot féministe.
Mais c'est dur. J'avoue qu'à chaque fois, on me regarde d'un air bizarre, donc je suis obligée d'expliquer à chaque fois.
Alors, tu as créé justement ce réseau puissant, Bouge ta boîte. Et alors, comment est-ce qu'on peut essayer de pouvoir être leader de sa vie, c'est-à-dire bah, donner une direction, tout lead, ça veut dire quand même montrer le chemin, donner sa propre direction, puisque bah, d'une certaine manière, on est tout le temps obligé d'être dans l'action, quelquefois l'hyperactivité. Donc, dans la notion de bouge ta boîte, comment est-ce qu'on peut essayer de bouger soi-même dans la bonne direction, de faire bouger les autres, puisque leadership, c'est aussi une question de savoir créer du followership, donc créer de la motivation. Comment est-ce que tu accompagnes ? Alors, on a compris que tu étais surtout sur des sujets liés à l'entreprise, mais voilà, les personnes qui nous écoutent ne le sont pas forcément. Est-ce que tu aurais une sorte de protocole à nous donner, d'accompagnement, pour qu'on sache qu'on bouge dans la bonne direction, qu'on fait bouger dans la bonne direction d'un leadership, justement, qui serait un leadership de soi ?
Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective et à l'identification. Donc, quand on est dans un réseau, que ce soit pour la création d'entreprises pour Femmes des Territoires, Bouge ta boîte pour le développement, Bouge ton groupe pour les salariés, mais on a d'autres formes de projets de vie. Hein. Moi, j'étais maman au foyer pendant plusieurs années. Donc, en fait, tout est bien, à condition qu'on se sente bien, en fait, et qu'on a choisi. Il vaut mieux, parfois, on n'a pas le choix, mais c'est comme ça. Et dans tout ce qu'on fait, on est en intelligence collective. Souvent, on est en sociocratie même. Donc, la sociocratie, c'est même temps d'écoute, même temps de parole. On est vraiment en cercle. Ce qui oblige les plus timides à se mettre en avant, les plus grandes gueules à écouter. On a vraiment ce même temps commun. Et puis, on a mis en place, notamment chez Bouge ta boîte, des méthodes très structurées pour que ça nous permette d'avoir de l'efficacité et de grandir les unes grâce aux autres. Et en fait, rien que d'être ensemble, mais c'est, comme tu l'as dit, c'est valable pour n'importe quoi, dans n'importe quel milieu, rien que d'être ensemble, on se dit, mais en fait, elle est comme moi et elle a fait ça, donc c'est possible. Mmh. Et la personne en face te dit la même chose, parce que c'est ça de l'intelligence collective et d'être de pair à pair. Je sais qu'on parle beaucoup du mentorat, et le mentorat a des vertus fantastiques, mais ça reste descendant aussi. Et donc, on a besoin aussi de cette intelligence collective de pair à pair. On a besoin des deux, en fait. Il n'y a pas une méthode miracle comme il n'y a pas de baguette magique. Et chez nous, c'est vraiment de l'intelligence collective. Donc, l'identification est très forte. Et moi, j'ai vu des personnes arriver dans les réseaux. C'est elle qui me donne de la force, parce que des fois, elle me dit « Oh Marie, t'as plein d'énergie ». Mais en fait, c'est facile, parce que c'est de l'énergie circulaire. Tu vois, des fois, j'arrive à des rencontres, des réunions de travail, tout ça. Je suis vraiment lessivée, quoi. Et en fait, je les vois, elles disent tout ce que ça leur a apporté, mais moi, je repars avec encore plus d'énergie. J'ai vu des femmes arriver, tu vois, par exemple, sur Femmes des Territoires, après un burn-out, des moments très difficiles, plus du tout de confiance, de légitimité en elles. Et en fait, le fait d'aider les autres en disant juste « ton projet, il est super », et de voir qu'il y avait un retour, puis d'aider sur des coups de pouce, parce qu'on a une plateforme où on peut aider, donner des coups de pouce, donc dire « Ah, mais je vais répondre à ton questionnaire, je vais faire ci, je peux te mettre en lien avec quelqu'un », enfin juste le sentiment de se sentir utile, ça leur a donné aussi l'envie de se dire « Mais en fait, mais moi aussi, je peux ». Donc avoir un projet qui me tient à cœur et le mettre en œuvre, le mettre en marche, en fait... Tu sais, je pense aussi qu'on a tellement de mauvaises nouvelles autour de nous, tellement d'images négatives, tellement de médias qui plombent sur le négatif, qu'en fait, ça nous donne un sentiment d'impuissance très fort. Et de voir autour les autres en action qui font des petits pas, parce qu'il ne s'agit pas de monter l'Himalaya tout de suite, hein. Il s'agit de se dire « Allez, je vais mettre mes chaussures de marche !» Tu vois ? Et de voir les autres mettre les chaussures de marche, tu te dis « Mais moi aussi, je suis capable de faire ça !» Et donc, par exemple, cette femme-là qui me donne... J'y pense souvent parce que quand il y a des trucs durs et je me dis « Allez, je dois faire ça pour elle, elle toute, tu vois. » Mais... Et je pense à elle. Donc, elle arrive en burn-out, elle a commencé à aider des femmes. Elle a repris confiance. Elle était dans un tout petit village, elle a ouvert un coworking. Donc, elle a redynamisé son village. Elle est devenue coordinatrice, ça veut dire qu'elle a animé des rencontres pour les autres. Elle est devenue leader, en fait. Mais leader d'elle-même d'abord, et ensuite, bah, quand t'es leader de toi, mais les autres, ils ont envie d'être comme toi, donc c'est du leader circulaire aussi, chef leadership
leader
circulaire.
Vertueux.
Vertueux. Donc ça, c'est sur Femmes des Territoires, mais sur Bouge ta boîte, j'ai vu des femmes entrepreneurs, elles sont déjà entrepreneurs chez Bouge ta boîte, des femmes entrepreneurs arriver, j'en ai une en tête, j'en ai même deux, je te donne deux exemples. Une en tête, une photographe qui est arrivée, mais toute timide, elle rasait les murs, quoi. Et puis, au bout d'un an d'intelligence collective, j'y suis retournée dans cette ville, c'était à Lyon. Mais cette fille déchire. Elle déchire aujourd'hui. Elle a une énergie, une aura, elle affirme les trucs, elle se marre. Enfin, elle a un aplomb, mais c'est les autres, en fait. Et elle le dit, c'est les autres qui lui ont dit, mais en fait, tu peux être toi. Et j'ai aussi une... Parce que parfois, on se dit, oui, mais les projets, ça paraît gigantesque à accomplir. J'en ai une qui m'a énormément émue. Elle est intervenue lors d'un de nos événements. C'est une bougeuse aussi. On s'appelle bougeuse parce qu'on bouge toutes nos vies, tu vois, nos boîtes, nos territoires. Et du coup, ben, ensemble, on bouge le monde, hein, vraiment. Et elle m'a dit, ben, moi, j'étais licenciée. Après 20 ans de bons et loyaux services, j'étais vraiment au bout du rouleau. Et un jour, je me suis dit, mais je veux plus de cette vie, de dépression. Et elle m'a dit, j'étais dans ma voiture, un feu rouge, je me rappelle très bien. Elle a pris un papier, un crayon, et elle a dit, je vais faire un petit pas par jour. Et son premier petit pas, pour te dire comment elle était, c'était à la caisse du supermarché, tu sais, quand t'as des petits coupons, de réclamer ce qu'elle avait le droit avec les petits coupons. Elle n'osait jamais. Elle se disait, mais je vais jamais, enfin, j'ai honte de demander ça, et s'ils me disent non et tout. Et en fait, elle l'a fait, c'était hyper facile. La caissière a dit, mais oui, bien sûr, elle lui a donné quoi. Et du coup, elle s'est dit, voilà, petit pas, petit pas. Et tous les jours, elle a fait ça. Elle a fini par retrouver un emploi salarié. Et puis après, elle a envie de monter sa propre entreprise. Elle a développé son entreprise et aujourd'hui, elle aussi, elle entraîne les autres. Tu vois, donc un petit pas, ça peut débuter bien bas. Et moi aussi, j'ai débuté bien bas.
En fait, pour être leader, il faut d'une certaine manière accepter aussi d'aider les autres ou être en lien avec les autres, c'est ça?
Oui, parce que nous, les femmes, et c'est notre grande faiblesse, Gila, on ne réseaute pas. On pense que c'est pas pour nous, qu'on mérite pas, qu'on sait pas ce qu'on va y apporter, ce qu'on sait pas, tu vois, on est toujours dans cette impression de donner, donc on sait pas ce qu'on va y apporter, on sait pas non plus ce qu'on va y faire. On a l'impression que c'est hyper compliqué ou qu'il faut rouler des mécaniques, et en fait, il faut juste être soi. Et du coup, on reste beaucoup isolé, que ce soit dans l'entrepreneuriat, n'importe quoi. On reste isolé en se disant, non mais moi, mon truc, c'est un tout petit truc, donc ça vaut pas, tu vois. Et moi, j'étais comme ça. Si j'ai créé ces réseaux, c'est parce qu'au début, je n'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau. J'aurais jamais osé me dire entrepreneur alors que j'avais créé, cofondé une école Montessori. Mais c'était en association, donc tu vois, je dis le « mais ». Donc je me disais, je me sentais pas entrepreneur. Et j'aurais jamais osé pousser ça, donc c'est pour ça que j'ai commencé. Et au début, quand je l'ai créé, c'était d'abord réseau régional en Bretagne, qui est aujourd'hui national avec Femmes des Territoires, mais c'était d'abord du digital. Et au bout d'un moment, il y a eu plein de femmes, parce qu'elles se reconnaissaient dans les valeurs d'entraide, de bienveillance. Je sais que c'est un peu galvaudé aujourd'hui, mais c'est quand même le cas. Et elle me disait, mais Marie, on veut se rencontrer. J'ai dit, non, c'est pas possible. Nous, on a un réseau digital, tu vois, j'avais peur de marcher sur les plates-bandes des autres et tout. Et elles m'ont dit, mais en fait, on fait ce qu'on veut. Et elles se sont rencontrées, mais elles ont eu tellement raison. Aujourd'hui, c'est des milliers d'événements par an.
Incroyable, bien sûr.
Mais moi, j'aurais pas osé le faire, c'est elles qui l'ont fait. Donc oui, il faut être entouré. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Ils nous ont mis en lien quelque part, mais de façon virtuelle. Et le jour où on sera unis, et encore une fois, pas unis contre, mais unis pour un avenir durable, pour des valeurs qui nous ressemblent, pour changer vraiment, transformer la société, et on sait qu'on n'a plus le temps, qu'il faut le faire aujourd'hui, le jour où on sera unis avec tous ceux qui souhaitent nous soutenir, mais le monde, il est transformé. Tu connais cette histoire en Islande en 1975. Les femmes ont été extraordinaires. C'est les associations féministes à l'époque qui ont lancé ça. Elles ont dit, on va faire une journée de grève. Donc c'était souvent un jour off pour ne pas être stigmatisée grève. Et donc, pendant une journée, elles ont tout arrêté. Alors, c'est un petit pays d'Islande. Elles ont tout arrêté dans ce pays, mais tout. Donc, elles n'ont pas fait à manger, elles ne sont pas occupées des enfants, elles n'ont pas fait le ménage, elles ne sont pas allées bosser. Le pays était paralysé. Mais paralysé, parce qu'en fait, il n'y avait plus de compagnie aérienne, enfin, il n'y avait plus d'hôtesse, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de liaison téléphonique. À l'époque, c'était des...
Bien sûr.
Il n'y avait plus... Enfin, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de médias, il n'y avait plus de restaurants, il n'y avait plus de pharmacie, il n'y avait plus d'infirmières. Et puis alors les pères débordaient, les enfants, ils ont mangé que des bonbons et des saucisses, selon la légende, tu vois. Et en fait, et elles ont manifesté pacifiquement dans les rues. Et grâce à ça, il y a eu quelques temps après une loi pour l'égalité, et ça a été ensuite le premier pays à avoir une femme chef de gouvernement.
C'est vrai.
Parce qu'elles se sont mobilisées juste une journée. Tu imagines la puissance qu'on pourrait avoir si toutes et tous, et vraiment, que ça soit le genre, mais aussi, je pense, à toutes les formes d'inclusion, le handicap, les minorités ethniques, mais tout en fait, si, et ça s'appelle l'intersectionnalité, tu vois, si toutes et tous, on se dit, mais en fait, on ne veut plus. On ne veut plus de ce monde-là, ça ne nous correspond pas. Et on s'arrêtait ne serait-ce qu'une journée, je t'assure.
Que le lendemain.
Le lendemain, alors peut-être pas le lendemain parce qu'il faut l'écrire, mais les lois seraient changées, les priorités seraient changées. Les priorités, tu vois, données au vivant et à l'humain et plus au capitalisme. Des fois, on marche tellement sur la tête sur certains sujets liés à l'environnement. On laisse faire des choses qui sont tellement contre ce qu'on doit faire aujourd'hui. Je suis sûre que nos priorités seraient transformées, notre façon de fonctionner serait transformée. Donc, je rêve que de ça.
Mieux à la réalité. Donc, le fait d'oser, c'est aussi oser ne pas faire. C'est ça aussi que tu es en train de nous dire.
C'est très dur.
C'est très compliqué. Parce que je pense que là aussi, quand on est leader ou qu'on brigue un certain leadership féminin, on pense tout de suite qu'il faut faire. Alors que quelquefois, oser être leader, c'est aussi accepter de ne plus faire.
Et dire non.
Et dire non.
Je peux te dire que moi, je suis un cobaye. Hein. Tu sais, c'est ma psychothérapie, mes réseaux. Parce que je suis vraiment comme tout le monde, tu vois, j'aurais pas osé pousser la porte d'un réseau, enfin tous ces trucs-là, donc j'expérimente dans mes réseaux pour ensuite mieux le diffuser. Par exemple, dire non, pour moi, c'était impossible, je faisais tout gratuit au début. Pour te donner un exemple, quand j'avais l'école Montessori, j'étais bénévole à temps plein, et j'étais ORSA et maman solo en parallèle. Tu te rends compte à quel point c'est aberrant, en fait. Mais donc, c'est pour ça, afficher son juste prix, parler d'argent, c'est extrêmement dur, et savoir dire non tout autant, c'est très dur. Et tu vois, je vais te donner un exemple, c'était il y a quelques mois, pour te dire qu'il y a du chemin. Et pourtant, je connais par cœur le sujet et je sais que ce sont des biais. Donc quand tu sais que ce sont des biais, déjà, après, tu peux les enlever, tu vois,
c'est plus
facile.
C'est encore pire.
C'est facile de les identifier et de dire c'est un biais, je l'enlève. Même ça, tu vois, mes équipes, elles vendent mes conférences, notamment sur l'égalité professionnelle dans les grands groupes. On s'est vendu. Avant, je faisais tout gratuit. Mais pas que ça, les réseaux, tout. Et quand les gens y passent directement par moi, je dis mais oui, bien sûr, pour toi évidemment, et puis
bien sûr,
et puis
bien
c'est
sûr.
Pas possible et tout. Et derrière moi, mes équipes elles m'ont pourri, elles m'ont dit mais Marie, comment veux-tu qu'on vende ça si toi derrière quand on passe directement avec toi c'est gratuit. Et donc je me rappelle très bien, j'ai dû rappeler la dernière personne. Je me rappelle, j'étais dans mon jardin, j'avais été coachée avant par ma directrice de Bouge ta boîte, Julie Baudin, qui m'a dit si tu dis voilà, tu sais mon tarif c'est ça. Et si elle te dit, tu dis pas tout de suite, mais si c'est toi, évidemment, tu dis pas tout de suite, mais si c'est pas possible, évidemment, tu te tais pendant 10 secondes. Et donc j'étais au téléphone, je me rappelle très bien, je suis à grosse goutte, et j'ai dit, voilà, mon tarif, c'est ça, et j'ai compté 1. Et puis elle me dit, ah, mais je savais pas, Marie, mais évidemment, on va trouver un budget.
Incroyable, donc c'est passé.
Ouais, mais en fait, c'est dire non. Ne pas faire, tu vois, souvent, nous les femmes, on se dit, bon, ben, en fait, personne ne va le faire, donc on le fait. Mais du coup, quelle charge mentale gigantesque. Et ça aussi, c'est un des freins gigantesques à la mixité, à l'égalité. On se tape plus des trois quarts de tout, qui est lié les charges domestiques, les charges parentales et tout. C'est une réalité, en fait. Hein. C'est mis dans les chiffres, je pense même qu'ils sont un peu édulcorés, mais c'est quand même une réalité. Et parfois, ne pas faire, ça peut permettre de prendre l'ampleur de tout ce qu'on fait au quotidien.
C'est ce que faisait.
Mais c'est dur à faire parce qu'on se dit ouais mais bon on va pas laisser.
Il y a le syndrome de la bonne élève qui veut absolument.
Trop fort.
C'est ça, qui veut absolument que les choses soient faites aussi bien que ce qu'elle ferait. Donc il y a ça aussi. Et puis c'est vrai que laisser les choses être faites pas comme on veut, c'est assez.
Ou
compliqué.
En bordel. Ou pas faites.
Ou pas faites. Et pourtant continuer.
Ouais.
C'est très compliqué.
C'est pour ça que je te disais, c'est très facile parce que c'est magnifique d'être soi-même et du coup d'être leader de soi-même. Et puis du coup, en étant leader de soi-même, on inspire énormément de gens. Parce que tout le monde a envie d'être leader de soi-même. Je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas envie d'être leader de soi-même. Donc nous, en montrant l'exemple et en étant soi-même, ça inspire énormément d'autres. Donc ça, ça paraît facile. Mais c'est extrêmement dur, je te disais tout à l'heure, parce qu'on est sur du changement de mentalité. On doit... On nous a toujours appris à être, comme je disais tout à l'heure, non visible, etc., dans des moules, dans des codes. Et tout d'un coup, être leader de soi-même, c'est regarder tout ce qui ne nous va pas dans ça et choisir ce qu'on a envie d'être et en construire des nouveaux. Et tu vois, avec les réseaux, je vois bien, les femmes, elles créent des nouveaux codes. Des nouveaux codes de l'économie, des nouveaux codes d'intelligence collective, des nouveaux codes du travail ensemble, tu vois. En France, par exemple, on glorifie énormément la croissance. On dit c'est important d'avoir des chiffres d'affaires qui augmentent sans cesse, etc. D'embaucher toujours plus, c'est ça qu'on glorifie. Mais moi, ce que je constate, notamment chez les femmes entrepreneurs, c'est pas du tout ce dont elles ont envie, et chez les hommes aussi d'ailleurs, c'est d'être alignées avec soi, de décider d'avoir la vie qu'elles ont décidé, de pouvoir concilier facilement la vie pro-perso, etc., et de travailler en synergie avec d'autres personnes en qui elles ont confiance. Tu vois, avec des prestataires, etc. C'est pas la course à la croissance. Ça aussi, c'est un mythe. C'est dans la vraie vie, c'est pas quelque chose dont on a envie ou besoin, en fait. Et ça a été pourtant glorifié, mais comme le pouvoir, comme la hiérarchie, tu vois. Ça a été valorisé beaucoup.
Alors, est-ce que le fait d'oser d'être leader, c'est accepter aussi d'être très au clair sur qui on follow. C'est-à-dire oser être follower et avoir des repères clairs aussi. Tu parlais justement de certaines femmes qui t'inspirent dans tes différents groupes. Est-ce que avoir comme ça des repères forts qui nous permettent de savoir que ben, finalement on suit certains leaders, c'est important pour essayer de nourrir son leadership?
À se nourrir, oui. C'est pour ça, on en parlait tout à l'heure, d'être entouré, c'est tellement, tellement, tellement important. Donc, et parfois, on se fait une montagne, on se dit qu'on ne va pas être bien accueilli, comme je disais tout à l'heure, qu'on ne sait pas ce qu'on va y faire, mais en fait, toujours, donc oui. Et ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, ce qui nous fait... Enfin, il y a pas, c'est pas forcément des leaders totalement... inaccessible.
Inaccessible, d'accord.
Et tu vois, longtemps, dans les modèles femmes qui ont été mises en avant, c'était que des leaders extraordinaires, mais auxquels je ne pouvais pas m'identifier. Jamais je serais comme elles, en fait. Tu vois, des personnes vraiment hors normes à des sphères stratosphériques. Et en fait, on a aussi besoin de s'identifier à des personnes qui nous ressemblent. Donc, ça peut être, oui, ça peut être des personnes de son quotidien ou autour de soi. Et puis après... tu vois, moi, une personne que j'admire énormément pour son leadership, c'est Jacinda Ardern, qui a été première ministre de Nouvelle-Zélande, parce qu'elle a fait les choses différemment, avec authenticité, avec empathie, en mettant les choses importantes au cœur. Sous son mandat, ils ont vraiment transformé la gouvernance pour que les priorités ne soient plus financières, mais bien humains, vivants, etc.
Ça, c'est fantastique.
Le care, les personnes âgées, les enfants, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire.
Justement, dans le cas de Jacinda Ardern, est-ce que le fait d'oser être une femme leader, c'est pas aussi oser trouver la force de la répartie? Elle en a eu beaucoup, rappelle-toi, en particulier lorsque on a dit « Ah oui, elle part en quittant le navire », elle a eu un discours incroyable sur la responsabilisation qu'elle avait de choisir de partir à ce moment-là. Donc un vrai courage. Est-ce qu'il y a aussi un travail que nous, les femmes, on doit faire vis-à-vis d'une capacité de répartie?
Moi, je suis nulle en répartie. J'y pense toujours après, tu vois, quand on me dit un truc. Puis des fois, quand on dit quelque chose de dur, t'es un peu abasourdi ou de sexiste, tu vois. Tu vois, j'ai fait plusieurs levées de fond, je me suis pris des trucs. Et j'étais abasourdi, en fait. C'est après, dans la nuit, je me dis, mais pourquoi j'ai pas dit ça? Mais moi, je suis à retardement, tu vois. Donc, en répartie, je suis nulle. Par contre, je pense que, et ça, on l'a, c'est le courage et faire fi de sa peur. Ça, c'est des choses possibles. Le courage, c'est dans les tripes. Donc, de toute façon, on sait quand on est connecté à soi, c'est-à-dire quand on dit, ben voilà ce qui me convient. C'est dans les tripes. On sait quand c'est juste. Même, on sent quand on maquille, en fait. Et ça, cette justesse permet de trouver le courage, de dire oui, non, c'est ça que je veux, etc. Donc, ça permet. Et tant pis si on n'a pas de la répartie immédiate, on peut aussi revenir après en disant, ben en fait, ça ne me convient pas. Et voilà ce qui va. Et donc le courage et puis la peur. Moi, je suis une grosse trouillarde, je t'ai déjà dit. je suis une immense trouillarde, mais par contre, j'ai pas envie que ça m'empêche d'avancer. Donc j'ai ce mantra, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et du coup, je me dis, ah ben en fait, il y a un autre possible. Il y a un autre champ de possible. Rien que de se dire ça, mais en conscience, hein, ça veut dire les yeux fermés, mais qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Ben, tu te dis, ben, je ferais ça. Et je me dis, bon, alors je vais peut-être pas réussir à faire ça exactement parce que c'est parfois très culotté. Mais par contre, il y a parfois des nuances, tu vois. Et du coup, j'identifie que c'est de la peur. Donc je me dis, bon, j'y vais quand même. Je fais quand même. Puis je pense, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est toutes les femmes qui sont derrière, tu vois. Je me dis, allez, si je le fais pas, qui va le faire, là? Donc je me dis, j'y vais.
Alors, qu'est-ce qui te fait peur en ce moment? Et qu'est-ce que tu ferais, justement, si tu te disais que tu n'avais pas peur? Donne-nous un exemple concret. C'est ce qui te fait encore peur, parce que là, on te sens tellement aligné avec un tel courage et une telle compréhension, hein, presque, d'un leadership de soi assumé. Qu'est-ce qui te fait encore peur aujourd'hui, Marie?
Mais j'ai peur tout le temps, en fait, Guylaine. J'ai peur tout le temps. J'ai peur de pas réussir au sens continuer à avancer et mobiliser, fédérer toujours plus autour de la mixité. J'ai peur. Moi, ce qui me terrifie, c'est de pas être assez convaincante. J'aimerais tellement être beaucoup plus convaincante que quand je parle, tout le monde dit « Ouais, elle a raison. » Mais en fait, c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Et, et convaincre à quel point la mixité, c'est vital pour l'humanité, à quel point on en a besoin dans toutes les sphères de notre vie. Et j'ai peur de ne pas être à la hauteur tout le temps, j'ai peur de ne pas assez faire, j'ai peur de ne pas être assez bien avec mes équipes, parce que moi je dis... Ah voilà, on va faire ça. Et ils se disent, ils sont terrifiés, putain, qu'est-ce qu'elle a encore, tu vois. Et du coup, il faut que je les embarque, mais moi, je suis pas très bonne pour ça. Donc, par contre, je suis bonne dans une chose, c'est bien m'entourer. Donc, j'ai des personnes extraordinaires autour de moi. Tu vois, j'ai parlé de Julie Baudin pour Bouge ta boîte, j'ai Céline André pour Femmes des territoires, qui sont des managers fantastiques. Et elles qui savent transformer en concret, tu vois, cette envie. C'est presque, oui, elles disent vision, mais en fait, c'est, tu vois, cette avancée, là où on va, quoi. Et pourquoi c'est important de le faire ? Elles savent le transformer en concret et qu'on soit ensemble, en fait.
Et alors, si tu fermes les yeux maintenant et que tu essayes de faire, voilà, ton mantra, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ?
Bah, moi, je fais un grand mouvement international pour qu'on soit enfin écoutés.
Bon, bah écoutez, on a l'honneur de vous annoncer au micro de Métamorphose, Marie qui lance son mouvement mondial.
Non, mais rigole pas trop, parce que je te jure que je suis capable un jour, pas là. Là, on a trop de défis au quotidien. Mais je me dis, est-ce qu'on a le temps et est-ce qu'on a le choix ?
Mais je sais que tu en es capable, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on t'a invité aujourd'hui. En tout cas, on est très fiers de l'action que tu mènes, c'est vrai. Merci encore d'être venu, de nous avoir donné les clés pour un meilleur leadership de soi. Merci pour cette belle énergie.
Merci
et
à toi, Guylain.
On va te suivre et suivre tes actions en attendant un mouvement mondial.
Moi, arrête maintenant, j'ai la pression, ça y est. Ça, tu sais, c'est une bonne technique, hein. Dire les choses avant de les faire, parce qu'après, t'es coincé. Les autres, ils reviennent vers toi en disant « Et alors, t'en es où ?» T'es fichu, t'es obligé d'avancer.
C'est vrai. On garde cette bonne technique que tous nos auditeurs essayeront, j'en suis sûre. Merci à toi d'être venu nous parler et à très bientôt dans Métamorphose.
À bientôt.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.